simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Colis Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Dimanche dernier, veille de la Journée internationale des prisonniers révolutionnaires, avait lieu une manifestation pour exiger la libération de Georges Ibrahim Abdallah, maintenant emprisonné depuis 39 ans. Cela en fait le plus vieux prisonnier incarcéré d'Europe. La première partie du reportage reviendra sur son histoire et donnera à entendre une lettre écrite par Georges Ibrahim Abdallah lui-même, tandis que dans la seconde partie de l'émission, vous pourrez entendre une interview sur les prisonniers politiques au Chili. Et c'est sans transition que nous commençons donc le reportage. Bonne écoute.
Donc aujourd'hui, on est le dimanche 18 juin et sur la place Jean Ferrat, qui est à la sortie du métro Ménilmontant, il y a une manifestation pour demander la libération enfin de Georges Ibrahim Abdallah. Donc est-ce que tu peux, peut-être pour commencer, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Georges, nous raconter un peu son histoire, un peu avant et après son incarcération, son arrestation et son incarcération en France?
Ben, Georges Ibrahim Abdallah est un militant communiste révolutionnaire libanais. Il est né il y a 72 ans. Il a commencé son éducation et son action politique dans le cadre de la guerre civile libanaise contre le système confessionnel et aussi très vite contre les ingérences et les agressions israéliennes contre son pays. Il a d'ailleurs été blessé en 1978 dans les combats. Il était proche du Front Populaire de Libération de la Palestine, du FPLP. Il a combattu dans ses rangs. Et puis, en 82, il participe à la création d'une nouvelle organisation qui s'appelle la FARL, la Fraction Armée Révolutionnaire Libanaise, qui décide de porter le combat, en fait, contre les ennemis de son pays, là où il se trouve, c'est-à-dire à l'étranger, comme d'autres groupes révolutionnaires l'ont fait dans le passé. Et donc, son organisation va revendiquer en France l'exécution de deux agents secrets, un diplomate américain et un diplomate de l'ambassade d'Israël, qui est en fait le second, je crois, du Mossad en France. À la suite de ça, il va être capturé en France à Lyon. Et à l'époque, il a un passeport fourni par l'Algérie. Et donc, voilà, il est inculpé de détention de faux papiers, c'est à peu près tout. Et donc, il doit passer en correctionnel. Il va être condamné à une peine de 4 ans de prison, je crois. Et normalement, l'affaire doit à peu près s'arrêter là. Et puis, fortuitement, la DST va découvrir dans un local des armes qui, soi-disant, auraient servi à exécuter le membre des services secrets israéliens. Et donc, à partir de là, l'affaire va s'emballer, d'autant qu'on est dans une période où des attentats massacres sévissent à Paris, qui sont en fait liés à des contentieux, un contentieux entre la France et l'Iran, et donc qui n'ont rien à voir avec la question des FARL ni avec le Liban, et qui sont de toute façon une toute autre façon d'agir, puisque les exécutions revendiquées par les FARL sont des exécutions ciblées sur des responsables politiques ou militaires et non pas des attentats massacres. toujours est-il que une campagne médiatique et le pouvoir lui-même essayent de désigner non seulement Georges Abdallah mais sa famille comme responsable des attentats massacres. Et à l'époque, il y a un diplomate français qui est enlevé au Liban. L'Algérie est présentant comme médiateur normalement. Georges Abdallah doit être échangé contre ce diplomate français qui est libéré. Et la France, en fait, ne va pas respecter sa parole. Et donc, non seulement Georges Abdallah ne va pas être libéré, mais il va être condamné donc pour complicité d'assassinat, puisqu'évidemment, on n'a jamais pu prouver qu'il avait participé à ces exécutions. Il va être condamné à la prison à perpétuité, alors que le procureur avait demandé une peine de 10 ans maximum. Donc il y a tout un enchaînement de choses qui font qu'il est le premier à affronter une cour d'assises spéciale qui avait été créée juste avant. Donc une cour d'assises composée de magistrats professionnels et sans jury populaire. Son avocat, ou un de ses avocats à l'époque, écrit au même moment un bouquin pour expliquer qu'en fait il travaille pour les services secrets français. Donc il est trahi par son avocat et tout ça ne va...
C'est qui son avocat ?
À l'époque, il avait Vergès donc, comme avocat. Ah. Et ce gars-là, dont j'ai oublié le nom, qui travaillait pour les services secrets français. Donc,
Non, mais moi, je voulais l'autre nom quand même.
Oui, l'autre nom.
Celui qui a balancé, celui qui a trahi son serment.
Ouais, voilà. Alors, celui qui a trahi son serment, je crois qu'il a eu une petite peine quand même d'interdiction de barreau, mais ça a quelques temps. Puis après, il a disparu.
Jamais, il faut que après, nous on soit au courant. Après, il a disparu. Plus qu'on le retrouve non, et qu'on le prenne.
Je crois qu'on le retrouvera pas, à mon avis. Voilà. Et donc, il est condamné à la peine de perpétuité avec une peine de sûreté de 15 ans, donc qui s'est terminée en 1999. Donc, en 1999, il était en droit de demander une libération conditionnelle. Il l'a fait un certain nombre de reprises. Au moins deux fois ou trois fois, ça a été accepté en première instance. Puis ensuite, en appel, sur appel du parquet. Et là, c'est pareil, les lois ont changé. Donc maintenant, ça revient à Paris. Voilà, c'est la cour.
Rappelle quand même que le parquet, c'est l'État quand même.
Voilà.
Hein, parce
voilà,
que c'est important. Donc c'est l'État
donc
qui l'État se refuse.
L'État français, effectivement, s'est refusé. Alors, on peut dire sur pression des États-Unis, mais enfin bon, la justice française, c'est la justice française. Effectivement, les États-Unis qui sont partie civile dans le procès, contrairement à Israël, on fait pression, c'est vrai, de manière très manifeste, puisque ça a été jusqu'à la chef du département d'État qui a pris position publiquement pour que Georges Abdallah reste en prison toute sa vie. Donc voilà, il est donc en prison cette année, en octobre, cela fera 40 ans. Donc...
Ce qu'il faut dire, je pense que tu allais le dire, c'est que sous Sarkozy, les exécutions peines changent un petit peu, dans le sens où quand on a une peine de plus de 15 ans, on passe devant le CNO. Donc on examine la personnalité de la personne qui pourrait prétendre à une libération conditionnelle. Et cette personne peut rester à vie, en fait, dans les prisons, à attendre une hypothétique libération. Et c'est sur ce coup-là que Georges Ibrahim est toujours incarcéré, en sachant que la loi, elle est postérieure à son incarcération.
C'est une des anomalies effectivement du dossier Abdallah, c'est qu'il a été victime d'une application rétroactive de la loi sur la rétention de sûreté. Mais enfin, le dernier épisode, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que quand il y avait effectivement le dossier pour la libération conditionnelle, le directeur de la prison acceptait sa libération. Il y avait ce fameux examen de la dangerosité, où là, effectivement, ce terme pouvant inclure n'importe quoi, évidemment, les représentants des victimes qui ont toujours le même rôle. Mais enfin, ça pouvait avancer. Mais la dernière demande de libération conditionnelle, en fait, qui a été acceptée, était conditionnée à ce que le ministre de l'Intérieur prenne un décret d'expulsion. Et donc c'était à l'époque Valls qui était ministre de l'Intérieur, et Valls a refusé de signer ce décret d'extradition ou d'expulsion, je ne sais plus comment on l'appelle. Et donc la justice n'a pas été capable, en fait, d'exécuter la libération conditionnelle qui avait été décidée. Et donc, depuis 2003, je crois, on est à peu près à cette étape-là. Sauf que devant ce refus Il y a eu encore une péripétie judiciaire puisqu'il y a une demande qui a été faite au ministre de l'Intérieur pour qu'il signe cet arrêté. Il n'y a pas eu de réponse, donc c'est allé au tribunal administratif. Et là, au tribunal administratif, ça a été jugé donc l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Il y a une chose quand même très intéressante, c'est que la rapporteure donc, qui représente l'État au tribunal administratif a dit qu'elle n'était pas en mesure d'obliger le ministre de l'Intérieur à signer, mais qu'elle ne voyait pas de solution juridique à la question, au cas Georges Abdallah, ce qui, en fait...
Ça veut dire que ce serait une zone de non-droit, en fait.
Ce qui valide ce que nous disons depuis toujours, c'est-à-dire que c'est un dossier purement politique, où c'est l'État qui décidera un beau jour, en fonction des problèmes que lui poseront effectivement le maintien de Georges en prison, de la campagne qui s'est beaucoup développée jusqu'à ces tout derniers temps, 28 députés qui ont signé pour sa libération, et qui, du coup, qui motive peut-être effectivement le fait qu'il vient... tout récemment, là, la semaine dernière, jeudi dernier, de refaire une demande de libération conditionnelle. Alors que jusqu'à présent, il refusait en disant « ça ne sert à rien, puisque si je ne suis pas assuré qu'il y aura un décret d'expulsion, donc voilà. » Sinon, ce qu'on peut dire de Georges Abdallah, c'est que c'est quelqu'un qui a un militant qui a une force incroyable, qui a résisté donc à ses 40 années de prison, qui n'ont pas réussi à l'éliminer, qui n'a jamais renié ses convictions, et que depuis sa cellule, non seulement il suit l'actualité de toutes les luttes dans le monde, au premier chef évidemment la Palestine, dont il reste un militant pour la libération nationale palestinienne. Et en Palestine, son portrait apparaît dans les manifestations et sur les murs. Enfin, c'est quelqu'un de très important. Un peu l'équivalent de Ahmed Saadat, qui était l'ancien secrétaire général du FPLP, qui est détenu dans une prison israélienne, lui aussi à vie d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment un militant qui continue à militer en prison. C'est-à-dire, c'est pas... Nous ne le présentons pas, il ne se présente pas en victime. C'est quelqu'un qui a pris un engagement et qui poursuivra son engagement sans doute jusqu'à la fin, quoi. Du coup, il y a un très grand respect pour lui, non seulement de la part évidemment des autres détenus, c'est l'ancien quand même, c'est le Chibani.
C'est l'ancien et je rajoute le fait qu'il aide les prisonniers à passer des examens, à les aider dans leurs études, à faire écrivain public. Ouais. C'est quelqu'un de voilà.
Oui,
il a même très généreux à l'intérieur.
Oui, il a aussi résolu des problèmes qui peuvent exister en toute prison à certains moments entre des groupes de prisonniers. Donc c'est quelqu'un qui force le respect effectivement par son attitude digne, par son attitude à la fois digne et engagée. Et qui vraiment, non seulement, alors je disais qu'il continue à lutter depuis sa prison, de participer par exemple aux grèves de la faim, quand il y a des grèves de la faim de solidarité avec des prisonniers révolutionnaires dans le monde, mais qui étudie beaucoup. C'est quelqu'un qui lit, qui essaye de suivre ce qui se fait en matière de théorie révolutionnaire, qui réfléchit aux évolutions actuelles en matière de répression, des mouvements de masse, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, avec les moyens qu'il a, qui sont évidemment limités, et avec toute le fait qu'il ne peut pas... qu'il est de toute façon...
dans une cellule, enfermé, dans une prison.
Essaye de respecter son engagement et de... voilà.
Ouais, alors là tu nous disais qu'il avait une vie intellectuelle et militante assez active. Mais physiquement et mentalement, comment est-ce qu'il va ?
Physiquement, ça va. Il fait du sport comme beaucoup de prisonniers. Et mentalement, il a beaucoup de visites prison, hein, de gens, des anonymes ou des gens plus connus qui viennent le voir. Par exemple, Jacques Gaillot, l'évêque qui avait été démis de ses fonctions, qui a toujours été très sensible à la cause des prisonniers parce que lui-même était visiteur de prison, est allé le voir de nombreuses fois à Lannemezan.
Et donc, hommage à lui d'ailleurs, oui, puisqu'il est décédé récemment. Voilà. Un grand salut à sa mémoire.
Ouais. Et dimanche, c'était dimanche dernier ou dimanche d'avant, il y avait effectivement un hommage à Jacques Gaillot en face de Saint-Germain-des-Prés. Et la question palestinienne et la cause de Georges Abdallah ont été soulignées par beaucoup de gens qui étaient là. Mais c'est quelqu'un effectivement qui résiste à la fois moralement, psychiquement, physiquement, et voilà, avec beaucoup de...
Alors, tu disais que la semaine dernière, jeudi dernier, il avait refait une demande de libération conditionnelle. Est-ce que c'est parce que vous sentez qu'il y a une possibilité politique de résolution ou pour à nouveau remuer aussi dans l'opinion publique? République, le cas de Georges.
Je ne sais pas exactement les raisons, il ne les a pas encore exprimées publiquement. Donc, mais je crois qu'il détecte certains changements, un élargissement de la mobilisation autour de lui. J'ai parlé de cette pétition-là, cet appel de 28 députés. Bon, dans le passé, il y a déjà eu beaucoup de personnalités politiques, associatives, que ce soit l'ALDH, Amnesty International, qui ont effectivement demandé sa libération. Là, peut-être a-t-il pensé que les conditions étaient en train d'évoluer positivement. Et sinon, ça c'est peut-être mon interprétation, mais parce que je pense que notre responsabilité c'est aussi peut-être de mettre l'accent sur ces 40 ans. Là on arrive à un chiffron. Bon, alors la campagne en France elle a commencé en 2004 ou 2005, donc il y a des camarades qui sont sur le pont depuis ce moment-là, mais c'est vrai que là, il faut qu'on utilise quand même ce chiffre rond de 40 ans qui est énorme, qui n'a pas d'équivalent en Europe. Mais donc, je pense que c'est le moment peut-être d'aller un peu plus fort. Alors pour l'instant, on fait des rassemblements. Aujourd'hui, donc, c'est la journée de solidarité avec les prisonniers révolutionnaires dans le monde. Donc chaque année, on faisait ce rassemblement. Je pense qu'aujourd'hui, il va être un peu plus important que les années précédentes. On a aussi l'habitude depuis 11 ans, je crois maintenant, d'aller autour du 24 octobre, qui est l'anniversaire de son incarcération, devant la prison de Lannemezan. Voilà, les dernières années, il y avait à peu près 1000 personnes. Donc c'est une manif quand même qui est assez...
Carrément, non. Ça mobilise en France, oui, oui. Bien sûr sur son cas, mais aussi partout dans le monde.
Alors, voilà,
donc,
oui.
Que ce soit au Liban, oui. Partout, les gens, même l'appel, sont d'accord pour le recevoir, oui, oui.
Pour nous, c'est quelque chose de très important, parce que il faut que la pression sur la France... effectivement viennent de un peu partout, donc en Amérique latine, en Grèce, en Tunisie, au Liban évidemment. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées, pacifiques en général la plupart du temps depuis longtemps, mais c'est important que la France sache
aller regarder partout dans le monde, et le regard est de plus en plus noir. Hein.
Et ce que l'on fait aussi toujours, et c'est visible aussi aujourd'hui, c'est de lier la cause de la libération de Georges Abdallah, la cause de libération de tous les prisonniers palestiniens. Donc aujourd'hui, on met l'accent par exemple sur Walid Daka, qui est très malade et que Israël refuse de...
Il est incarcéré dans les prisons israéliennes.
Voilà. Et qui risque vraiment...
Il risque de mourir à l'intérieur. Il faut qu'il sorte.
Il s'est passé récemment pour un autre prisonnier aussi qu'Israël n'a pas voulu soigner et qui est mort. Donc c'est très important de lier la cause de Georges Abdallah à la cause de la libération de la Palestine en général, mais finalement aussi à la cause de toutes les luttes révolutionnaires dans le monde. Voilà.
Ouais, exact. Je te remercie beaucoup. Merci. Qu'est-ce que représente Georges Ibrahim Abdallah pour l'UJFP? D'abord dire c'est quoi l'UJFP, et puis après dire pourquoi vous êtes ici dans cette manifestation.
Ben, l'UJFP, c'est l'Union juive française pour la paix. C'est une association juive laïque qui participe au mouvement de soutien à la Palestine depuis sa création en 1994 et qui lutte aussi contre tous les racismes en France et ailleurs. Et Georges Ibrahim Abdallah, pour nous, c'est le symbole de la résistance palestinienne. Bon, il est libanais, mais il a participé à la résistance. Et surtout, c'est aussi un symbole de l'injustice et du trafic d'influence en France qui empêche qu'il soit libéré alors qu'il peut l'être depuis 30 ans.
Carrément, non mais tout à fait. Et donc c'est pour ça que vous êtes venu avec une banderole.
On va à Lannemezan chaque année également et qu'on participe à toutes les manifestations de soutien pour qu'il sorte, pour qu'il soit libéré de prison comme il est légitimé à le faire depuis des années.
Et maintenant, une déclaration de Georges Ibrahim Abdallah à l'occasion de la manifestation nationale pour sa libération.
Chers camarades, chers amis, votre mobilisation solidaire, dans la diversité de votre engagement, apporte beaucoup de force et de chaleur à tous ceux et celles qui, depuis tant d'années, s'exprime de derrière les barreaux, à travers les initiatives que vous développez sur le terrain des luttes en cours. Il y a juste un an, lors de la journée internationale du prisonnier révolutionnaire, certains parmi nous se demandaient si par ce temps de crise globale du capitalisme mondialisé et de l'exagération de toutes ces contradictions, et plus particulièrement l'affirmation de ces divers processus de fascisation, eh bien certains se demandaient si la bête et son prolongement organique qui est l'entité sioniste, il ne serait-il pas permis d'entrevoir un autre horizon plus ambitieux à cette occasion et de dépasser l'affirmation de notre solidarité inébranlable avec la lutte de nos camarades en Bastille. Ne serait-il pas temps d'affirmer que la célébration de cette journée internationale du prisonnier révolutionnaire devrait prioritairement inciter toutes les structures de solidarité à interpeller et encourager les forces vives de la Révolution et ses avant-gardes combatives afin qu'elles mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires à l'expression pratique de la ferme détermination d'arracher nos camarades aux griffes de leurs criminels geôliers. Bien entendu, camarades, il ne s'agit pas là d'affirmer haut et fort un quelconque devoir d'ordre moral envers nos camarades captifs. Il s'agit tout simplement de conjuguer les capacités des forces révolutionnaires au niveau national, régional et international et d'inscrire en premier lieu la libération de nos camarades dans la dynamique globale des luttes réellement en cours. Si nous estimons, camarades, que le peuple palestinien fait l'objet d'une criminelle stratégie de destruction systématique, et si nous estimons que la lutte de ces masses populaires dure depuis plus d'un siècle et qu'elle est toujours appelée à s'inscrire dans un processus de lutte de longue haleine, la question des prisonniers et de l'enfermement, d'une manière générale, s'inscrit alors d'emblée dans la dynamique globale de cette lutte et par conséquent, on ne peut pas l'aborder comme une des tâches à s'en acquitter une fois pour toutes. Les forces vives de la révolution palestinienne et de ses avant-gardes combattantes ne peuvent pas faire abstraction de cette réalité. Elles savent mieux que quiconque que l'enfermement dans la diversité de ses formes n'est qu'une expression de la politique sioniste de tout ce qui est palestinien. Cette criminelle politique durera tant que ce prolongement organique de l'Occident continuera à s'affirmer. Et tout naturellement, c'est aux forces vives de la révolution palestinienne à structurer la dynamique la plus appropriée, à développer le cheminement vers la dissolution de cette criminelle entité et de toutes ses assises racistes et suprémacistes. La libération de nos camarades embastillés devrait se répéter tout au long de ce cheminement. Vous voyez, camarades, quand on parle de l'impératif devoir envers les camarades en captivité, il ne s'agit pas d'un devoir moral, il s'agit tout simplement de disposer, de conjuguer des capacités des forces révolutionnaires réellement existantes. Soyez, camarades, à la hauteur de ce devoir et au besoin, à tous, à voix haute, à tous et toutes, sachez que c'est le devoir le plus sacré et que tout révolutionnaire doit être prêt à s'en acquitter. Soyez dignes de l'épopée des flambeaux de la liberté, ces indomptables héros résistants captifs dans les geôles sionistes, libérons-les. Certainement, on n'a pas à attendre que l'état de santé de notre cher camarade Walid Daka soit alarmant pour agir. Certainement, on n'a pas à attendre que nos camarades captifs fasse la grève de la faim à tombeau ouvert pour dénoncer la détention administrative. Certainement, on n'a pas à attendre que le secrétaire général Hamed Sadat soit mis à l'isolement, ainsi que les autres dirigeants du FPLP. Les conditions de détention dans les geôles sionistes ne cessent de s'empirer jour après jour. Et comme vous le savez, camarades, pour y faire face, la solidarité internationale s'avère une arme indispensable. De la prison de Ramon, Ahmed Sadat, ainsi que les milliers de camarades embastillés dans les geôles sionistes, vous transmettent leurs salutations révolutionnaires et attirent votre attention sur ce qui se passe en Palestine avec l'arrivée au pouvoir des fascistes suprémacistes. Que 1000 initiatives solidaires fleurissent en faveur de notre camarade Walid Dacca. Que 1000 initiatives solidaires fleurissent en faveur des grévistes contre la détention administrative. La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les geôles sionistes et dans les geôles d'isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce, aux Philippines et ailleurs de par le monde. La solidarité, toute la solidarité avec les prolétaires mobilisés dans ce pays. Honneur aux martyrs et aux masses populaires en lutte. À bas l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes et autres réactionnaires arabes. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux, honneur à toutes celles qui s'y opposent dans la diversité de leur expression. Ensemble, camarades, ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous, camarades, mes plus chaleureuses salutations communistes, votre camarade Georges Abdallah.
Nous allons passer à la seconde partie de l'émission qui traite des prisonniers politiques au Chili. Alors on est toujours actuellement dans la manifestation ce dimanche pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Puis là j'ai rencontré une manifestante qui va se présenter et exposer les motifs de sa présence et de son combat.
Bonjour, je suis Natacha Monroy. Je suis militante des trois organisations ici en France. Je milite pour la liberté de Mauricio Hernández Norambuena, qui est un prisonnier politique historique au Chili. Il est depuis bientôt 20 ans en prison. Une partie faite au Brésil, une partie faite au Chili, dans des conditions d'isolement total pour une partie de ces années-là, qu'il a effectué en prison. Et je participe à l'organisation qui s'appelle RIAPECH, qui est un réseau de soutien aux prisonniers de la dernière révolte sociale au Chili. Et là, il y a une série de jeunes majoritairement des jeunes populaires des quartiers qui sont trouvés en prison, et je milite pour la liberté de tous. Mais en particulier, j'accompagne un prisonnier depuis mars 2020 et dans son chemin vers la liberté. Et j'espère qu'il soit absu de toutes les lourdes charges que l'État essaye de les coller à la peau. Voilà. Et en troisième, je suis amie de la campagne unitaire pour la liberté de Georges Abdallah, bientôt 40 ans de prison, et qu'on attend que vite fait ça termine. C'est trop longtemps.
Ouais. Alors on va parler plus spécifiquement du Chili. Alors là, tu parlais de du dernier mouvement social d'ampleur, donc c'était en 2019. Quels sont les motifs de poursuite des personnes qui ont été arrêtées, qui se trouvent aujourd'hui en prison ?
Il faut dire qu'au Chili, on a une panoplie des lois qui sont, pour quelques-unes, très anciennes. C'est des lois, on va dire, généralistes d'atteinte à l'ordre public qui viennent des années 50 du siècle dernier. Et on a des nouvelles lois, les lois qui ont été faites ad hoc pour contraire les derniers mouvements sociaux. On a la loi anti-barricade, on a la loi anti-cagule, on a la loi de la salle des classes en sécurité, que ça lutte
contre... Tu peux préciser
ce que c'est ? Au fait, l'anti-barricade, tout ce qui peut être apporté dans une barricade ou qui peut servir à un moment déterminé à confectionner une barricade avec des différentes choses, est considéré comme une attente, non seulement à l'ordre public, mais sinon des caractéristiques terroristes, et on applique à la loi de sécurité de l'État. Ça veut dire que l'État s'est fait directement partie. Et c'est la même chose pour la loi anti-cagoule et anti-manifestation. C'est des lois comme ça. Par contre, la de la salle de classure, c'est une loi qui touche directement les lycéens des lycées au général à Santiago, qui font beaucoup de manifestations contre les délabrements de l'éducation publique au Chili, les manques d'investissement et les désengagements de l'État dans une spirale, on pourrait dire, d'éducation municipalisée où l'État, il y a de moins en moins un rôle à jouer. Donc, dans ces cas-là, on a fait des lois qui s'appellent la salle des classures. Et en quoi consiste ? Consiste à ouvrir les sacs des étudiants, les sacs à dos d'étudiants, pour voir qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur, de faire rentrer la force publique à l'intérieur de son centre scolaire, et aussi appeler la force spéciale pour aller perquisitionner les lycées.
Alors si je comprends bien, sur les premières choses que tu as évoquées, c'est le fait de posséder des choses qui t'incriminaient.
Oui.
Donc c'est même pas le fait de faire une barricade ou de mettre une cagoule, c'est le fait de les posséder et d'être fouillé. Et on retrouve un petit peu ça dans la loi sur les classes dites sûres.
Oui.
Voilà. Et quand tu dis fouille de sac, c'est qu'est-ce qui est recherché ? Ce sont des tracts, des choses ?
Non, majoritairement ce qui est recherché, plus que des tracts et d'autres choses, parce que ça s'utilise très peu au Chili, on va dire. Ça a des folklore. En général, les jeunes, ils utilisent beaucoup de molotov. Et c'est ça qu'on cherche en général, c'est des bouteilles, c'est des acides et d'autres choses qu'on peut utiliser à la confection de molotov. Et aussi des combis blanches, parce que les jeunes au Chili, en général, les lycéens, quand ils sortent à manifester, ils ne sont pas habillés en noir. Sont habillés majoritairement en blanc et en combi blanc, on dirait, je sais pas, sortant d'un sas médical. Ils sont complètement habillés en blanc. Voilà. Et c'est ce type de choses qu'on recherche pour incriminer les jeunes au lycée.
Et là, ce sont donc des choses que tu retrouves sur les prisonniers actuellement au Chili depuis 2019.
Depuis 2019, je dirais non, la salle assure. Il est des années 2015-2018. C'est une loi qui s'était ad hoc contre la lutte des lycéens pour les gouvernements de droite comme de gauche qui ont dû faire face depuis 2005 à une révolte vraiment des étudiants lycéens et collégiens. Donc, c'est des lois qui ont été faites exprès pour eux.
Alors là, tu parlais donc des personnes que tu suis. Est-ce que tu peux nous en parler davantage ?
Bon, bah, je voudrais parler en général. Et la révolte sociale, il a fait arrêter des jeunes, majoritairement des garçons, mais il y a aussi, il avait des filles qui étaient en prison, de tous les milieux sociaux, majoritairement bien sûr populaires, des gens qui étaient à la sauce, on va dire, chilienne, qui s'appelle Sename, et qui sont les jeunes qui sont été abandonnés ou maltraités par leur famille, voilà, écartés de ces familles pour les conditions économiques de pauvreté. Donc, on préfère arracher les enfants aux familles que les donner à la famille la dignité pour vivre et pour pouvoir élever ses enfants. Après, on a des jeunes travailleurs, des jeunes chômeurs et aussi des professionnels, même des pêcheurs, on va dire, des artisans, pêcheurs, des artisans, boulangers, etc. Mais comme tu vois, il y a un ample spectre des jeunes populaires. Et les jeunes que je suis ces dernières deux années, c'est Nicolas Pigne, c'est un jeune ingénieur, père de deux enfants, et qu'il était arrêté en mars 2020, qu'il a fait une année en pleine pandémie en tôle, dans une tôle, on va dire, entreprise, hein, une tôle privée au Chili. À un moment de la pandémie, il s'est trouvé pendant cinq jours sans eau potable pour pouvoir se laver. Et ils ont dû faire, heureusement, ils avaient un portable camouflé, ils ont fait un appel et une dénonciation. Et c'est comme ça qu'on a commencé un peu à les entendre. Ça fait un mouvement aussi de grève pour la liberté des prisonniers politiques. Et l'actuel président Boric, social-démocrate de droite, il a promis de les laisser en liberté. Il a libéré une dizaine de jeunes, mais sans faire de sa politique, la libération des prisonniers politiques et finir avec la prison politique. Ce qui a donné que pour la grande majorité de la presse bourgeoise, c'est des délinquants et pas des militants, des assos sociales ou des jeunes des quartiers. C'est des délinquants. Donc cette criminalisation au gouvernement actuel a servi à imposer une vision d'extrême droite vis-à-vis de ce qu'est la prison politique, parce que la prison politique au Chili, c'est la prison des jeunes anarchistes, c'est la prison des Mapuches qu'ils ont incriminé pour essayer de récupérer sa terre et sa dignité, et aussi les lycéens et les camarades qui, depuis les années 90, sont en prison parce qu'ils n'ont pas accepté l'issue pactée néolibérale que le Chili les a offert à la fin de la dictature.
Quels sont les régimes de détention ? Quelles sont les durées déjà ?
Bah, au Chili, c'est quand même space, hein, parce que tu vois les camarades qui sont en longue prison historique, qui venaient de la lutte antidictatorielle, eux, ils risquent jusqu'à la double perpétuité. José Mauricio Hernández Norambuena, connu comme le commandante Ramiro. D'un autre côté, on a les étudiants qui, pour la salle sûre, ils risquent quand même déjà l'expulsion de facto du lycée et l'éloignement de son centre d'études et après la prison ferme. Ils si sont mineurs, on peut les envoyer à la sauce chilienne et incriminer les parents à payer des crimes supposés commis pour leurs enfants. Donc c'est une punition sociale, politique et économique. Et d'un autre côté, pour les jeunes anarchistes, c'est des peines, surtout pour poser des bombes. Donc on a des peines lourdes quand même, qui passent les 5 ans, et où tu perds tes droits civiques. La même chose pour la majorité des prisonniers de la révolte, qui ont sorti majoritairement condamnés, très peu absus, et où ils sont pour la grande majorité perdu ses droits civiques.
C'est droit civique à vie ou c'est...
À vie. Au Chili, quand tu es incriminé et condamné à une peine de plus de 5 ans et un jour, tu perds tes droits civiques de facto. Quoi que ce soit ta peine. La même chose, c'est que si tu as fait une barricade, que tu trafiques la drogue ou que tu as tué quelqu'un.
Il y a beaucoup de personnes qui ont une peine de plus de 5 ans, comme ça?
En général, non. Mais pour les prisonniers des droits communs, en général, il y a des aménagements de peines qui se font assez rapidement. Et malgré le multirécidivisme, parce que la prison, ce n'est pas la solution, et la prison d'entreprise à la Julienne non plus, très loin de ça, c'est tout le contraire. Et par contre, ce qui arrive à la majorité, c'est de faire des peines de 5 ans, mais 5 ans à jour, c'est surtout pour les prisonniers politiques et aussi pour les personnes qui sont aujourd'hui culpabilisées de trafic de drogue. Voilà.
Comment s'opère la justice? Les gens sont jugés tout de suite, rapidement, ça prend le temps.
D'accord.
Comment ça se passe exactement? Comment se déroule le procédé judiciaire?
Je dirais, pour les cas de violation aux droits de l'homme, avant la fin de la dictature, nous pouvons attendre 10 ans, 15 ans. D'accord? Et même nos dossiers contre l'État chilien pour terrorisme d'État, ils n'ont pas le droit, les juges, de le prendre pour eux-mêmes, sachant qu'il y a des lits et que l'État, c'est le même coupable. Donc, il le sait, il nous a reconnu la qualité des victimes, des lèse-humanité, mais par contre, c'est à nous de prendre un avocat et de payer une justice qui est très bureaucratique et qui te prend au minimum 10 ans pour pouvoir mener à jugement à quelqu'un, avec des résultats très incertains. Dans notre cas, pour les camarades qui ont lutté les fins de la dictature et les premières années de démocratie, les condamnations sont très lourdes. Associations illicites terroristes ont été données déjà 10 ans de prison. Et à ça, on ajoutait encore des charges. Ça pouvait faire très facilement 30 ans. Donc on parle des peines de 15 ans vraiment pour pouvoir demander quoi que ce soit comme droit. Et pour les autres, les jeunes, je dirais anarchistes, ils sont quand même attendus pas mal. Et au général, eux, c'est un an et demi de prison. La même chose pour les prisonniers de la révolte sociale, de l'année de révolte sociale. Les jugements sont dans ce moment-là, après, je t'ai dit, 2002, ils sont passés une année, 2020, pardon, ils sont passés une année et demie en prison avant de pouvoir sortir. Il y a quelques-uns qui sont encore en prison et qui attendent à être jugés. Mais c'est presque pour tous un an. Et pour les jeunes collégiens, ils sont rapidement arrêtés. Après, on sera majorité laissé assigner à résidence en attendant son jugement. Mais à résidence totale, il faut se pointer à la maison pour un camion de flics qui se déplace pour aller demander la signature, à se pointer. Ça peut être à 3h du matin, 5h du matin. C'est très intrusif.
C'est la police qui vient chez toi et pas toi qui viens au commissariat.
Non. C'est la police qui va chez toi. Et si tu n'ouvres pas la porte parce que tu dormais ou tes parents ils sont à travailler et tu ne t'es pas réveillé au moment qui passe, ils te mettent comme si tu n'étais pas chez toi. Et après, c'est la prison ferme. Ouais. Même si tu es mineur, hein. C'est ça. Si tu es mineur, on t'amène à la sauce, qui c'est un centre de redressement pour des jeunes délinquants. Ils sont vus comme ça. Même si la grande majorité, c'est des victimes de maltraitance, d'abandon, même de pauvreté et de marginalité. Et les jeunes, ils sont dans un centre de redressement. Donc, ils sont dans un traitement carcéral, maltraitement. Et voilà, des viols, des violences assez graves. Qu'il y a 10 000 jeunes qui ont disparu des archives de l'ancien CENAME, Centre des services pour les mineurs au Chili, ça s'appelait comme ça, et ils se sont perdus en 10 ans 10 000 enfants, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, ils sont morts, comment ça. Il y avait même des filières, on va dire, d'exploitation sexuelle et de pédophilie à l'intérieur de ces centres. Donc ouais. On parle vraiment des trucs très glauques.
Et est-ce qu'on meurt en prison au Chili? Est-ce qu'il y a des statistiques qui existent sur ça? Des témoignages de prisonniers qui font sortir ça?
Et écoute, les jeunes ils meurent en prison au Chili, bien sûr. Dans toute la diversité des prisons politiques au Chili, tout le monde meurt en prison. Mais ceux qui sont les plus lourdement touchés, et si on prend l'univers total des prisonniers, c'est les Mapuches. Il y a eu pas mal de peignes, de camarades Mapuches qui ont été assassinés dans ces cellules. Et après, les jeunes anarchistes, il y a un jeune anarchiste qui était poignardé par un autre jeune dans une prison à Maipú il y a, je dirais, 5 ans. Bientôt 5 ans, oui. Et jamais ça a été enquêté. C'est terrible. Mais oui, on meurt en prison en Chine.
Alors, tu parlais de grève. Est-ce que tu peux nous en parler davantage?
Les grèves au Chili, les grèves des prisonniers politiques, c'est une façon de lutter historique. Déjà, depuis la dictature et même avant, pendant les gouvernements militaristes, au commencement du XXe siècle, on a eu des grèves dans les camps de concentration à Chacabuco ou à Pisagua. Ça, beaucoup s'est développé ça. Donc, la grève à l'intérieur de la prison, la politique à l'intérieur de la prison, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. Les prisonniers anarchistes et subversifs, pardon, et eux aussi, ils ont fait des grèves ces dernières années. Les prisonniers de la révolte aussi. Mais malheureusement, ils se sont démobilisés très rapidement, ceux de la révolte. Duque Boric, il avait promis de les libérer. Et les gens, ils ont été crédules, ils ont cru qu'il allait les libérer, chose que ce n'était pas passé.
Le président.
Boric, c'est l'actuel président du Chili.
Boric, pardon.
Oui. Donc voilà. Mais la grève continue à être une façon de réindiquer ses droits au Chili et avec les manifs en dehors de la prison aussi, bien sûr.
Quelles sont les perspectives? Parce que là, donc, il y a eu dernièrement, ça fait un petit peu de temps maintenant, il y a eu la constituante qui n'a pas été votée, qui a été repoussée. Il y a un nouveau processus constituant. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous décrire un peu tout ça? Et est-ce qu'il y a un rapport avec justement la situation carcérale au Chili?
Je pense qu'il est directement quand même lié. Le rejet de la première assemblée constituante, malheureusement, il ne comptait pas avec un mass media à niveau national pour la faire connaître du peuple. Donc, il est resté comme la bibliothèque d'Alexandrie, connue que des initiés, des gens qui s'intéressent à la politique, les gens qui savent qu'est-ce que c'est un texte juridique et qui peut le lire. Donc, malgré qu'il y avait énormément de petites triptyques des droits généraux, les mêmes médias qu'au Chili sont très, très concentrés. Ils sont de l'extrême droite fasciste et blanchissante parce qu'ils se prennent pour européens, caucasiens, nordiques. Et à criminaliser cette convention et les textes juridiques qui sont sortis d'une assemblée qui se ressemble beaucoup au peuple chilien. Malheureusement, on a fait avec vote obligatoire des gens qui ne sont pas intéressés à la vie commune en société et par laquelle, il faut le dire, ils n'avaient pas une vraie explication du texte. Donc il était incriminé comme un texte qui voulait l'expropriation, la fin de l'État unitaire chilien, bon, des conneries. Vraiment pas possible et je m'excuse, mais c'est vrai, c'est des conneries. Parce que le principal, c'est que les femmes, on aurait eu les droits à rester à la maison sur leur évolu pour aider nos vieux et nos jeunes quand on n'a pas de crèche. Le droit aussi à tomber malade et ne pas pouvoir travailler. chose qu'aujourd'hui les Chiliens ils meurent au travail parce qu'ils sont pauvres et la retraite privée à point est incapable de les entretenir jusqu'à ces derniers jours. Idiot à part, avoir des droits normaux, je dirais, droit à la santé, droit à l'éducation, à une maison digne. Bon, ces choses-là, c'était subversif et la majorité il a voté contre ça. Maintenant, c'est un show. C'est vraiment une combine entre parlementaires qui sont élus entre eux-mêmes des experts, complètement hors le peuple. Et en plus, après, ils ont créé des listes de les propres partis politiques sans que personne dehors des partis politiques puisse participer. Donc, c'est une remise en force de l'État profond, du parlementarisme décadent chilien qui essaye de prendre la main de façon politicienne pour les professionnels qui sont payés grassement pour les Chiliens. Hein, parce qu'il faut dire qu'un parlementaire chilien coûte le double de ce qu'il reçoit les parlementaires français. Que nous, on est bien estomaqués quand on voit la quantité d'argent qu'on les fait cadeau aux parlementaires en France, mais les Chiliens, c'est presque le double. Donc, c'est vrai qu'il y a un grand problème avec la légitimité qu'il y a cette assemblée de désigner pour faire une constitution. Et le problème, c'est que nous sommes avec une épée de Damoclès sur la tête, on a voté un texte issu de la mafia politicienne parlementaire ou rester avec la constitution de Pinochet. Donc voilà. Mais je pense que c'est inique essayer d'approuver une constitution qui nous ne représentera pas non plus parce qu'il n'a pas, la participation populaire dedans.
Alors, on va revenir à aux prisons. Est-ce que la constitution, donc la première, celle qui a été proposée et qui n'a pas été adoptée, est-ce qu'elle prévoyait des choses vis-à-vis justement des prisons ou du système juridique ?
Bon, les constitutions en général, c'est des lois généralistes. Hein. C'est des lois généralistes et dans ces cas-là, il n'avait rien destiné à la prison, mais quand même à faire évoluer les peines des prisons. Ça veut dire donner l'opportunité aux personnes de ne pas perdre ses droits civiques déjà pour qu'ils soient socialisés, pour qu'ils s'intéressent à la vie publique et d'autres façons aussi d'arrêter avec la criminalisation. Au Chili, il y a énormément d'emplois qui te demandent ton casier judiciaire et aussi ton casier économique. Ça veut dire si tu as payé tes dettes. Si tu es un bon payeur, tu peux travailler, je sais pas, dans l'enseignement privé, dans la santé privée, dans la banque, dans les prêts. Une série de prêts revolving qui au Chili sont hyper développés depuis les années 80, parce qu'on a quand même, on était l'expérience. Pour tout, la consommation, ça limite au monde. Donc nous avons des listes noires qui sont gérées de façon privée, où n'importe qui paye. Il met tes données perso, il peut avoir ton casier économique, tu vois. Et ça aussi, c'est quand même une double peine. Si on parle en fait des différents casiers judiciaires et casiers économiques au Chili, c'est parce qu'au Chili, tu peux te trouver en prison si tu ne payes pas tes dettes. Ou empêcher de travailler normalement pour ne pas payer tes dettes. Et tes dettes, tu ne peux pas te dessaisir de tes dettes. C'est tes enfants aussi qui vont les hériter. Et de cette façon aussi, on veut t'obliger à payer et à payer. Dans un pays où le crédit, c'est le roi, parce que les salaires, ils sont pas très élevés, c'est vrai que c'est une vraie machine à broyer les gens, à les maintenir soumises et à pas se révolter. Donc, il faut lutter contre ça aussi, la consommation inutile.
Ça ressemble un petit peu à ce qui pourrait préfigurer un crédit social.
Pas nécessairement, parce que le crédit social existe, un monde de piété chilien. Mais en général, tu laisses quelque chose. Si tu ne payes pas, tu perds ce que tu as laissé en consigne. Mais tu ne vas à ton nom, ta personne, ne va passer dans aucun lieu privé pour qu'on sache que tu n'as pas payé, on va dire, l'objet consigné. Ici, non. En fait, j'ai étudié à l'université, je n'ai pas pu payer. L'université publique est si chère que la privée. Bon, bah, je vais directement, l'université vend les données des personnes moroses de ces paiements universitaires à une entreprise privée pour se faire dédouaner et me faire la chasse aux mal payeurs. Tu vois? Donc, le Chili, depuis le temps de la dictature jusqu'à aujourd'hui, on a 5 ou 6 types de gens qui doivent de l'argent à les maisons d'études supérieures à différentes époques, mais où on accumule des intérêts qui vont au-delà de l'inflation. Donc, moi-même, je dois plus de 5 000 euros aujourd'hui de ma dette universitaire chilienne. Et si je ne la paye pas, parce que je suis ici en France, c'est à mes enfants de la payer. Et si mes enfants ne la payent pas, ce seront mes petits-enfants qui vont la payer. C'est un système vraiment néfaste et vraiment mortifère.
On va terminer cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Oui, je voudrais surtout dire que j'étais aujourd'hui présente pour la liberté de Georges Ibrahim Abdallah, et qui depuis 39 ans se trouve dans la prison française, que depuis les années 90, il aurait dû être libérable, et que personne ne fait rien parce que le Liban, c'est un État déficitaire, un État qui n'est plus un État et qui n'a pas la force de demander à la France sa liberté. Donc c'est à nous aujourd'hui de la demander et de continuer ce combat pour la fin de la prison politique, pour la fin de la prison tout court, qui est une machine de broyer les gens. Je dis, ceux qui n'ont pas eu les mêmes choix et les mêmes droits que nous et qui se trouvent en prison, on ne peut que compatir avec cet univers qui est complètement sordide. Et je pense que la société civilisée pourrait les proposer quelque autre solution qui les mette en prison sans rien les donner, aucun espoir. Voilà.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est... Ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Voilà, c'est pour la liberté, la liberté et la liberté.